jour où on m'a dit...
Salut Romain.
J'allume tous les micros parce que je vois même pas ta couleur. T'es pas bleu, t'es pas rouge.
Jaune vert.
Ouais, c'est un petit peu le drapeau du Brésil. Vas-y, continue de parler.
Bonjour à tous.
Ah bah super, elle est encore là. Elle est encore là. Et de quoi qu'elle va nous parler ce soir, ton imaginaire?
Eh bien, de deux romans sortis chez La Talente.
T'as lu deux fois plus.
Et oui, j'avais pas manqué de lecture ces derniers temps. Je lis.
Est-ce qu'il y a plus de livres qui sortent en ce moment? Non, on attend la rentrée de septembre peut-être,
pas
non?
Pas forcément en ce moment, ouais. C'est plus la préparation de la rentrée littéraire.
Mais en fait, toi, t'as des trucs un peu en avant-première.
Eh bien aussi. Non, puisque je vais quitter la librairie.
Non, mais même. Bon, ok.
Mais oui, en quelque sorte, oui. Sur certaines nouveautés, effectivement.
Qui arrivent dès maintenant.
Voilà.
Pour ceux qui les chroniquent. Et donc, oui, tu disais, La Talente.
Voilà, de roman La Talente, donc composite d'Olivier Paquet et Les Jumeaux du Paradoxe de Joshua Chaplinsky.
Ok, donc un livre écrit par un auteur français.
Exactement.
Et un livre écrit par un auteur.
Et en fait, un auteur qui a un pseudonyme. C'est un pseudonyme.
Ah, d'accord.
Donc, c'est un auteur anonyme très intéressant qui plaisait.
Et en seconde partie d'émission, on écoutera l'interview de Boris Beuzelin et Tony Emeriot, qu'on avait enregistré à l'Angers Geek Fest.
C'était
il y a 3 mois quasiment.
Oui, à peu près.
On diffuse ça parce qu'en ce moment, ils sont en plein fou lancement du 3e tome de Paria, leur série de comics, 3e tome sur 4. On a pas mal suivi, on les a déjà reçus pour en parler. Et donc, c'est toujours en fou lancement sur Ulule avec le rééditeur Comics Initiative. Et on les avait topés. Bon, ils étaient sur notre stand aussi, c'était facile, à l'Angers Geek Fest. Justement, eux, ils y étaient un peu pour la sortie de Paria 2, qui tombait complètement dans la thématique de cette 4e édition de l'AGF, Utopie, Dystopie. Et puis, donc voilà, à l'époque de l'interview, il savait pas encore exactement comment ça allait se lancer, tout ça. Donc, vous pouvez aller voir ça sur Ulule. Allez, on commence l'émission donc avec ton premier choix musical.
Exactement.
Un truc que j'ai découvert, c'est du métal a cappella.
Alors, c'est bien possible.
Ah, tu t'en es même pas rendu compte.
Comme chaque émission, je propose une musique que j'écoute sur Deezer. J'ai un coup de cœur. Et puis, voilà.
Alors, en fait, ils ont un batteur, là. Attends, comment ça s'appelle déjà?
Mais je ne me renseigne pas plus.
C'est quoi déjà le nom du groupe?
Van Canto.
Ah oui, Van Canto. Ça veut peut-être
si
un rapport avec le fait que ce sont des gens qui chantent, surtout. Et ils ont l'air d'être 6 chanteurs et un batteur. Voilà, on va s'écouter. Alors, c'est des Allemands, donc ça va être le morceau Neuerwind. Ça a 10 ans, mais c'est une découverte pour moi. On s'écoute ça sur le 101.5 dans Imaginaire.
Geh diesen Weg, dreh dich wieder um, geh ihn bis zum Schluss. Ein Weg, der
nicht sind, du bist nicht allein. Hier sammeln sich alle Mächte, lass es deine sein. Und wenn du auch an Kraft verlierst, verzweifle daran nicht. Denn sicher ist, du hast immer noch dich.
Geh diesen Weg, dreh nicht wieder um. Geh ihn bis zum Schluss. Ein Weg, der gegangen werden muss. Es ist nicht mehr weit, geh doch dieses Stück. Und lass dich bitte nicht zurück. Was Strom, Wand und Regen, lauf auf neuen Weg.
Donc dans Imaginaire sur le 100.5, c'était un extrait de leur quatrième album Break the Silence en 2011. Je pense que ce groupe est toujours en activité parce que je vois qu'ils ont sorti un album en 2021 chez Napalm Records. Oh. C'est l'heure de ta chronique, alors on te met ton petit jingle.
Donc... Comme dit précédemment, je vais vous parler de deux œuvres parues chez La Talente, le premier Composite d'Olivier Paquet et le second Les Jumeaux du Paradoxe. Et on va commencer par Composite. Dans ce roman, l'auteur inclut dès les premières pages le lecteur en utilisant le vous. Et ça marche très très bien puisqu'on est pris dans l'histoire et très vite dans les interrogations d'une jeune femme, Esther, qui s'aperçoit qu'on lui a subtilisé un souvenir via une notification qu'on lui partage d'attendre quelques années. Et c'est qu'une fois qu'elle réalise que ce dernier ne correspond pas à son véritable souvenir, qu'elle réalise aussi l'importance de celui-ci. Celui d'un balcon, notamment, qui représente la présence de son père qui prenait soin de ses plantes, donc un moment de vie précieux, qui la change sans qu'elle s'en aperçoive tout de suite. Et avec ses compétences, puisqu'Esther réhabilite des espaces naturels à l'aide des traces numériques que nous laissons tous sur Internet, elle va entreprendre de comprendre ce qu'il se trame et pourquoi on veut lui retirer ce souvenir en particulier. C'est donc par le biais de recherches informatiques qu'elle se rend compte qu'elle est loin d'être la seule et trouve notamment Vincent, fils d'un meurtrier et policier, travaillant en lien avec des... intelligences artificielles nommées les chéries, drôle de nom, pour détecter des pédophiles et notamment un internaute en particulier nommé D. On n'a pas plus d'informations quant à ce personnage, mais la rencontre entre Esther et Vincent mène à une enquête beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Et je reste là-dessus pour ne pas spoiler. Olivier Paquet nous pousse à nous interroger sur la manipulation des données, notre utilisation d'Internet et sur les IA, et plus largement sur nos souvenirs, nos relations avec nos parents et l'influence que tout ça peut avoir sur nous, notre comportement et nos pensées. Avec des descriptions aussi entraînantes qu'ancrées dans la réalité, il happe clairement le lecteur dans cette intrigue en forme de puzzle, un excellent roman politique-fiction, dont on ne sort pas indemne. Olivier Paquet est un auteur de science-fiction qui a écrit une quinzaine de romans et que je vous invite à découvrir. Et je veillerai personnellement à me tenir au courant de ses prochaines parutions. Et, j'en perds mes chroniques. Trop de chroniques d'un coup, hein. Et en ce qui concerne le roman Les Jumeaux du Paradoxe de Joshua Chapinski, c'est un ovni littéraire pour le coup, et un récit pour le moins étrange qui laisse perplexe. Il est donc difficile de le chroniquer, mais l'originalité est remarquable. En effet, l'auteur nous questionne dès les premières lignes sur qui est Joshua Chapinski, puisqu'il s'agit d'un pseudonyme, donc auteur anonyme pour le coup. Et pourtant, le principe semble simple, puisqu'il se repose sur un concept scientifique qui est la relativité. L'auteur explore le destin de deux jumeaux nés sur Terre. Et pourtant, très très intéressant. L'un partirait pour un voyage dans l'espace à vitesse de la lumière avant de revenir, tandis que l'autre resterait sur Terre.
Oui, c'est souvent un exemple qu'on cite quand on parle de la relativité.
Voilà. Oui, mais j'explique au cas où.
Ouais.
Chacun a donc ses propres référentiels et pense que l'autre est plus jeune à la fin de cette aventure. L'auteur nous propose donc de le mettre mettre ce concept-là en évidence avec les jumeaux, l'anglais Max et Alan. Max étant un célèbre auteur de science-fiction, young adulte, et Alan est un professeur de physique. Les deux se retrouvent à l'enterrement de leur père, Paul, l'anglais. Mais Joshua Chapinski est également un des personnages, puisque finalement, on est aussi un petit peu à la quête de cet auteur et de sa personnalité. Et il tente de nous raconter l'histoire de la famille l'anglais et les événements qui sont survenus autour de la mort de leur père. Il utilise une sorte de collage littéraire en juxtaposant des extraits des mémoires de Max l'anglais, petit déjeuner avec le monolithe, de celle de son frère Alan l'anglais, hop, les jumeaux du paradoxe, et enfin celle de Millicent Blackford, je sais pas trop comment on le prononce, le troisième jumeau.
Ah bon.
Il y a donc trois romans dans un, mais il y a également des extraits de l'adaptation de Petit Déjeuner avec le monolithe par divers auteurs, des analyses de textes, une déclaration d'acte de naissance et un rapport d'intervention de police, ce qui nous donne une pluralité de perceptions et donc de vérité. L'auteur explore ce qu'est la vérité et remet en perspective notre propre définition, car selon les points de vue, la vérité change. Elle n'est ni vraie ni fausse, finalement. C'est donc un récit extrêmement complexe, mais brillant.
Ouais, on dirait, ouais.
Tant par des références littéraires que par la volonté de Joshua Chapinski de ne pas se prendre au sérieux, puisqu'on remarque de nombreuses notes humoristiques. Je le recommande tant par le génie qu'il démontre que pour en perdre de pied, c'est pas peu dire puisque j'en perds mes mots, car finalement la vérité n'est qu'un simple point de vue et ça fait réfléchir un nombre incalculable de fois. Joshua Chapinski est un auteur anonyme donc qui explore beaucoup de choses à travers son récit, notre volonté de tout catégoriser finalement sans doute en fait partie, car ce n'est pas un roman qui appartient à un genre précis. Il colle et découpe plein de concepts, un petit bijou de réflexion et d'humour à travers un concept quasi philosophique qui donne également la voix au lecteur, puisque nous aussi, nous avons notre propre perception du récit et nous faisons finalement partie de l'histoire. Voilà, voilà. Et pour finir, je vous propose d'écouter Wild Rose du groupe Wolfenmond.
Je pense que c'est un groupe allemand aussi.
C'est radiogé.
Wolfenmond.
Sie reitet, treibt die Schafe ein. Am liebsten ist sie mit den Pferden allein. Im Dorf redet sie, erntet nur Spott. Sie geht nie zur Kirche und glaubt nicht an Gott. Verbrennt jedes Essen, verzieht das Gesicht. Man sah sie nie tanzen, finden kann sie nicht. Sie ist mehr ein Kerl als ein Weib. Schlank und krank, voller Kraft ist ihr Leib. Die Zunge ist dornig, doch die Knospen so zart. Eine Rose von wilder Art. Mancher Bursche hat es gewagt, den Vater um die Hand gefragt. Ein Schwiegersohn ist nicht in Sicht, denn heiraten will sie noch lange nicht. Sie reitet, hält die Zügel in der Hand, die wildeste Rose, die man je fand. Sie reitet, zieht die Zügel an, mit den Pferden wie jedermann. Wer ist denn hier der Herr im Haus? Die Leute im Dorf, ja, die lachen ihn aus. So packt den Vater einst die Wut. Er wirft seine Tochter voller Zorn vom Gut. Fortan soll sie ihre Wege gehen. Er will sie nie mehr wiedersehen. Der Winterhimmel ist sternklar. Die Nacht wird so kalt, wie sie es lange nicht war. Der Wind weht eisig um das Haus. Kein Morgen treibt's den Vater hinaus. Mit Sorge geplagt in die Berge hinein. Hier ließ er die Tochter allein. So ist sie doch sein einziges Glück. Oh bitte, Kind, komm nach Hause zurück. Sie reitet, hält die Zügel in der Hand. Die wildeste Rose, die man je fand. Sie reitet, zieht die Zügel an. Mit den Pferden wie jedermann. Hinauf, ihren Spur nach, er gibt nicht auf. Doch er sieht nur jenen Garten von wilder Rosen, die am Wegesrand warten, die neugierig ihre Stängel retten, die vorwurfsvoll ihre Dornen sprechen. Doch schwächer ihr Blick, je weiter er geht, blasse Blüten, deren Schönheit verweht. Der Frost kriecht glitzernd über das Blatt, Knospen vertrocknet, der Kopf fängt matt. Die Kälte hat die Rosen verbrannt, auch die wildeste, die man je fand. Sie reitet, hält die Zügel in der Hand, die wildeste Rose, die man je fand. Sie reitet, zieht die Zügel an, mit den Pferden wie jedermann. Der Frost hält nun die Zügel in der Hand, hat jede Farbe aus dem Dorf verbannt. Der Winter zieht die Zügel schneller an, in seiner Faust, da trifft Frau wie Mann.
Wolfenmond dans Imaginaire sur le 100.5, ouais, ça souffle pas mal. C'était un extrait de leur 7e album quand même, Saga, en 2007. Groupe oui. Allemand donc plutôt trad quand même au début, qui a viré un peu de plus en plus rock. J'ai l'impression que là, c'est limite métal maintenant, ce qu'ils font, ces gens. On va s'écouter l'interview de Tony Emeriaux et Boris Beuzelin qu'on avait rencontré, invité, et puis rencontré, interviewé. Alors c'est sûr, en fait, c'est surtout Sébastien de la case de Seb et les voix du Scénarium aussi, que vous retrouverez dans 40 minutes sur cette même fréquence. C'est surtout Sébastien qui avait fait l'interview de Tony et Boris à propos donc de cette série qui est prévue en 4 tomes.
Oui.
Ils en font un tous les ans, là, j'ai l'impression, toujours donc via Ulule.
Quoique, du coup, il n'y a pas eu 2 parutions en l'espace d'un an.
Ça a peut-être été un petit peu plus vite que ça. Et donc, voilà, c'était au début d'avril, donc tout n'était pas calé sur le fou lancement. Et notamment, ils vont parler un petit peu de tout ce qui était prévu, les paliers qui sont débloqués au fur et à mesure, des choses comme ça, les potes qui sont invités à dessiner dedans. Et donc, on s'écoute ça tout de suite dans l'imaginaire sur le 101.5.
Alors, je suis avec Tony Emeriaux et Boris Beuzelin.
Et Yokwan aussi.
Et Yokwan, mais il n'y a que 2 personnes, donc imaginez. Ouais. Et de. Qu'est-ce que vous faites là?
Alors déjà, on est en dédicace tout le week-end avec Boris sur le stand de Imaginaire slash Richer, j'imagine. J'ai pas bien compris en fait quelle était la répartition, pour être honnête avec
nous. Nous non plus. Il y a des transfuges.
Et nous dédicassons les deux albums de notre série Steampunk Paria, qui est là, pas franchement par hasard, rapport au fait que la thématique de cette année, dont tout le monde semble se foutre, hein, très honnêtement, on est en plein dedans. Voilà. Oui. Ce qui est intéressant cette année, c'est de... On est venu l'année dernière, on est venu en dédicace, on n'avait que le premier tome parce que le deuxième n'était pas encore sorti, et on a beaucoup de gens qui reviennent, qui ont pris le premier en se disant, bon bah pourquoi pas, après tout, on peut s'essayer à un achat, voir si ça nous convient.
Ça n'engage à rien.
Et il y a beaucoup de gens qui ont été convaincus et qui reviennent cette année pour qu'on leur dédicace le deuxième tome. Donc ne serait-ce que ça, ça fait d'emblée plaisir.
En même temps, le premier tome se termine sur un gros cliffhanger.
Oui, mais le deuxième est bien mieux. Et bien plus complet.
Et de quoi ça parle ?
Paria ?
Ouais.
En reprenant depuis le début ?
Bah ouais.
Ouais, c'est ce qu'on appelle un récit steampunk. Alors, il y avait nos amis de... Les Geekstoriens qui étaient là les années précédentes, qui sont pas là cette année, qui avaient évoqué le terme...
J'ai plus. Le terme mécatopique.
Ah, c'est ça, ouais, mécatopique. C'est pour être... pour éviter steampunk, parce que c'est un anglicisme, et puis qu'à un moment donné, il y en a un peu marre des anglicismes, mais là, c'était mécatopique, qui veut plus ou moins dire la même chose, hein, concrètement, mécanique et dystopique. Donc, on était, ou utopique, en fonction de ce qu'on choisit. Dans tous les cas, ça colle aux deux thèmes de cette année. Et c'était un récit qui se passe au 19e, comme la plupart des récits steampunk, à une époque où, normalement, l'électricité supplante la vapeur, mais là, c'est pas le cas. En fait, l'électricité, la vapeur est toujours très présente dans le cœur des gens et dans les rouages des machines. Et là, on démarre dans un Paris qui se reconstruit doucement après une guerre civile qui a duré 2 ans, avec force attentat, force mort. Et l'histoire démarre dans une léproserie où il y a nombre de patients qui sont atteints de la lèpre bleue. Lèpre bleue, qui est une maladie qui n'est pas arrivée comme ça par hasard, hein. Elle est arrivée suite à des affrontements entre les forces de l'ordre et les gens, où ils ont utilisé un gaz, ce qui n'arrive pas dans la vraie vie. Enfin,
c'est là où tu vois que c'est une œuvre dystopique.
Ouais, complètement.
C'est vraiment très très loin du réel.
Quelque chose qui...
imaginaire.
Ça fait assez peu reflet de ce qui peut se passer aujourd'hui en France. Mais bon. Et du coup, cette scène démarre en fait dans la léproserie. Et dans la léproserie, on a une jeune fille qui évolue parmi les patients sans se poser de questions. Elle n'est pas spécialement infectée, alors que normalement, on est sur une maladie surinfectieuse. Et le médecin en blouse blanche se questionne un petit peu en se disant pourquoi, qu'est-ce à dire, comment fait-elle. Là-dessus arrive un commando lourdement armé qui défonce les murs, défonce aussi les gens, hein, concrètement, parce qu'il y a beaucoup de cadavres au sol.
Défonce les malades.
Leur objectif premier, c'est d'aller cueillir cette demoiselle, en fait, pour l'emmener. On n'a pas encore vraiment les tenants et les aboutissants de cette histoire. Mais en tout cas, l'idée, c'est de l'enlever. Et elle, en voyant le sang, elle se met à laper comme un petit chat. Elle prend un peu de force, un peu de courage, un peu de bravoure. Et elle se met à donner un peu de répondant à ses assaillants, qui sont pourtant normalement lourdement armés. Alors, on éventre 2-3 au passage. Wow. Il y a quand même le plus gros de la bande qui arrive à lui mettre un gros IPN dans la tronche. Il la met à terre. Et il y a un petit cut noir, parce que du coup elle est un peu dans les vapes. Et elle se réveille nue dans un caisson en verre avec 5 personnes qu'elle ne connaît pas du tout et qui ne la connaissent pas elle non plus. Ils sont présentés de manière assez brutale à un monsieur en fait qui se déplace en fauteuil roulant avec un masque à gaz. C'est quelqu'un qui est quand même relativement bricolé, qui a été refait à plusieurs étages, on va dire ça comme ça. Et qui lui dit, écoutez, moi j'ai du pognon, j'ai du pouvoir, donc je fais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est me payer une équipe de super-héros, des jouets qui seront à moi et qui m'obéiront au droit et à l'œil, comme doivent le faire les jouets normalement. Et l'histoire démarre comme ça. Voilà.
Et un petit peu, si vous n'êtes pas d'accord, c'est tant pis pour vous quand même.
Si vous n'êtes pas d'accord, c'est tant pis pour vous, d'autant que vous avez un petit boîtier dans la nuque qui est susceptible de vous balancer une onde électrique assez virulente, malgré tout.
Ouais, c'est pas très très friendly quoi.
On n'est pas sur un démarrage de comédie. C'est pas tu vois.
On est loin de Bourville.
Ouais. Pour ne citer que ça. Mais oui, ça démarre comme ça, grosso modo.
Super. Donc 2 tomes actuellement.
Ouais.
2 tomes qui sont passés en financement en full lancement. Tiens. Bon, on va faire une francisation.
Un full lancement, c'est bien. Ouais,
c'est bien.
Ouais. De full lancement qui se sont bien passés. Hein.
Les deux, le premier mieux que, enfin le deuxième mieux que le premier, donc ça suit une pente ascendante de ce point de vue-là.
En même temps, c'est Comics Initiative qui fonctionne que comme ça, je crois, non ?
Comics Initiative ne fonctionne que comme ça. Voilà. Systématiquement, ils demandent un financement participatif, à savoir la Vox Populi, pour savoir si un projet doit voir le jour ou non. Et comme disait Boris sur Paria, ça s'est très très bien passé. Le premier, on arrivait un peu de nulle part. Donc il y a quand même eu un engouement. On a eu le financement. On est arrivé à un peu plus de 100%. J'ai plus exactement les chiffres en tête. C'est pas folichon, mais c'était encourageant. Et le deuxième, ce qui est intéressant, c'est qu'on a transformé l'essai et que là, pour le coup, on a bien vu un engouement éminemment supérieur à la première campagne. Donc, vivement la troisième qui démarre bientôt. Bientôt. Normalement.
Il y a une vraie date ou pas ?
Il y a une vraie date, il y a un vrai mois. Il y a le mois d'avril. Après, du coup,
il y a hyper vite. Quoi.
Dans les meilleures configurations qui soient, demain, on est dans le mois d'avril, finalement. Donc, on aurait tendance à penser que c'est spontanément fin avril. Mais je pense qu'avril, mai, raisonnablement, on peut considérer qu'il y aurait le démarrage d'une campagne pour le Paria 3.
Parce que Comics Initiative, ils ont déjà un fou lancement en cours là en ce moment.
Mais Comics Initiative, en fait, il en a tellement en ce moment qu'il est en train de chevaucher les financements participatifs. C'est ça qui est complètement dingue. C'est qu'il n'a même pas le temps de finir une campagne qu'il y en a une autre qui démarre. Et étonnamment, il arrive à fidéliser comme ça, les gens le suivent. Je sais pas, peut-être que le nom de Comics Initiative résonne comme un gage de qualité, tu vois, éditorial en tout cas, et que ça ne désemplit pas. Donc on a, nous, bon espoir qu'au troisième, on ait encore un peu plus de disciples, si on peut appeler ça comme ça, que pour le premier et le deuxième.
Parce que c'était prévu dès le début en 4 tomes, c'est ça ?
Dès le début, c'était prévu en 4 tomes, et ça restera 4 tomes jusqu'au bout. S'il y a un énorme succès sur les 4 premiers qui représentent le récit principal, tu vois, vraiment le tronc de l'arbre, peut-être qu'on pourra rajouter quelques branches de ci, de là, mais c'est vraiment 4 tomes et l'histoire sera bouclée.
On était où ? Oui, du coup, est-ce qu'on aura des guests à nouveau comme ça a pu être le cas dans Paria 2 ?
Ouais.
On a déjà des noms ?
On peut ou pas, non ? Sur la couve, je pense que du coup, il n'y a pas de...
Sur la...
Parce que ça fait moins de boulot à Boris, en fait.
Alternative, on a...
Sur la couve du 3, du 3.
Du 3, ouais.
Parce que sur le 2, en fait...
un dessinateur qui a déjà produit une maquette. Une maquette qui l'a même fini d'ailleurs.
Une couverture alternative ?
Ouais.
Spéciale...
Une variante.
Ulule. Ouais.
Une variante qui va être sur le collecteur et qui est un acteur... Un auteur origine d'Espagnol qui officie pas mal aux États-Unis.
Ah ouais?
Qui s'appelle, je suis en train de teaser parce que je me rappelle plus de son nom, c'est terrible.
Le temps que cette interview soit censurée, de toute façon, on sera en plein fou lancement.
C'est Victor Santos, en fait, qui nous fait la couverture du troisième tome.
Et ben,
voilà.
Super.
Ouais.
Donc la couverture alternative, il y aura quand même une couverture faite par Boris.
Il y aura une couverture faite par Boris qui sera la couverture régulière qu'on trouvera dans le commerce et puis la couverture régulière qui ne sera que pour les heureux contributeurs, financeurs. Auront droit. Alors après, bien évidemment, il y a des libraires qui peuvent participer à l'aventure, qui auront aussi ces exemplaires. Donc il y aura très peu d'exemplaires de la couverture collector sur le marché, mais il y en aura quand même quelques-uns.
Super. Et à l'intérieur, il y aura des guests aussi ou pas ?
À l'intérieur, il y aura des guests, ouais. Il y aura des guests. On peut déjà citer le nom de Damien Geffroy, en fait, qui est un copain, qui est un auteur angevin. Souvent, on ne va pas chercher très très loin. Et qui officiera au même titre que Bones et Dominique Enbo sur le deuxième tome, à savoir dans les petits...
Gazettes ?
Non, pas dans les gazettes, dans les formats carrés, du coup, qui sont des... Après, comme t'as pas lu le deuxième, tu vas t'embêter.
T'en as la page 29, donc tu n'as pas vu encore. Allez, le petit tacle.
Mais du coup, c'est des espèces de vinyles, en fait. Des espèces de petits ménestrels qui sont inhérents à l'histoire et qu'on retrouve à la fin, qui ont été illustrés un par Bones et un par Dominique Enbo, qui sont muets et qui ont vocation à être écoutés en même temps qu'être lus. Et là, on a demandé à Damien de s'occuper d'un des segments. Et sur le deuxième segment, on n'a pas encore de guest. Mais on est en train de réfléchir et bon, on a quelques noms qui seraient susceptibles d'accepter et puis de remplir la mission haut la main. Donc bon, au moins Damien pour sûr, après la suite on verra.
Et ben top, ce sera à découvrir dans le financement participatif. On va passer la balle à Boris.
Ah ouais, s'il vous plaît.
Parce qu'effectivement,
arrêtez-moi,
t'es pas prêt. Parce que là, il boit du thé, mais tout à l'heure, c'était pas du thé.
Hein. Non, ouais, c'est ça. Et ça me fait parler, c'est fou. Hein.
Comment alors, c'est une question que je t'ai déjà posée au moins deux fois. Comment on conçoit en fait un univers
mécatopique.
J'avais perdu le mot. Visuellement.
Alors moi j'ai assez peu de références dans le steampunk classique, donc c'est un univers que je connais peu. Donc c'est aussi un avantage parce que du coup, moi j'ai pu projeter exactement des choses qui me plaisaient. J'avais envie de faire un univers qui était moins rococo et baroque que ce que j'avais pu voir qui collait à ce type d'univers qui en général très 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 fourni avec beaucoup de petits objets et moi je voulais faire quelque chose de plus brut qui correspond plus à ce que j'aime,
plus industriel, c'est vraiment
ouais, voilà, plus indus, exactement ouais. Donc ça collait pas mal avec l'idée de Tony qui est l'idée d'un univers qui est en fait à cheval entre quelque chose qui s'effondre et quelque chose qui se reconstruit. Donc on est dans une période transitoire où c'est un univers qui se cherche. Et du coup, le graphiquement, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus l'histoire avance, plus l'univers se construit. Mais au début, effectivement, c'était un univers qui se cherchait aussi dans le dessin. Voilà.
Et c'était une volonté de Tony ou de ta part de faire quasiment que du noir et blanc ?
Alors ça a été... Il y a eu plusieurs étapes. Au début, on a conçu ça en noir et blanc comme on conçoit une BD traditionnelle. On passe par noir et blanc, puis après on se dit on mettra de la couleur. Et on a fait des essais de couleurs qui finalement... Donc couleurs classiques en quadrille, comme la plupart des albums maintenant. Et on s'est dit que... Enfin, moi, en regardant les pages, je me suis dit, bon, ça marche comme d'hab, on va dire. Mais il n'y avait pas d'identité plus que ça. Bon, ça marchait, c'était la mise en couleur d'une planche de BD en noir et blanc. Et je trouvais que ça manquait d'identité. Donc, après, on a eu toute une réflexion. Pendant très longtemps, le projet a été voué au noir et blanc. C'est-à-dire, on va le sortir uniquement en noir et blanc. Et puis finalement, j'ai refait une proposition couleur qui était basée sur l'idée d'une couleur très sélective et avec peu de moyens, uniquement deux couleurs, hein, jouer sur un bleu et un rouge, et jouer en jouant sur des trames mécaniques qui permettaient de faire toute une hiérarchie de valeurs de gris intermédiaires, enfin de couleurs intermédiaires. Et finalement, là, l'identité s'est construite à partir de ce moment-là sur... il y avait quelque chose qui a émergé à ce moment-là. Je me suis dit, oui, là, il y a une identité réelle. Donc, on a gardé ça, en fait.
Ben, c'est top, le rendu est bien. Hein.
D'ailleurs, entre les deux tomes, vous avez sorti un petit fascicule en noir et blanc.
Ouais, noir. Tout à fait.
Oui, ben, ça, c'était une... C'était une volonté de l'éditeur de montrer aussi le travail en noir et blanc. C'était un peu le résidu de nos réflexions au cours du premier tome où le projet, comme je disais, a longtemps failli être édité en noir et blanc. Donc je pense que l'éditeur peut-être a voulu montrer un petit peu ce que ça aurait pu donner en noir et blanc. Et puis après, c'était aussi un petit truc promotionnel qui faisait un peu le pont entre le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, ce petit fascicule en noir et blanc, comme les fascicules de comics classiques.
On pourrait quand même imaginer un jour un petit fascicule full couleur.
Ah, on peut tout imaginer.
On peut tout imaginer, d'accord. Mais
tout imaginer.
Oui. Parce qu'il y a une bonne base de travail, du coup, qui existe.
Oui, non, mais... alors, avec Tony, on est assez attaché à cette idée de fascicule, parce que du coup, c'est... On a l'impression aussi de faire du comics comme les Américains, quoi. Donc de sortir d'abord en petit fascicule et tout. Ça, faut reconnaître que ça a quand même du mal à prendre chez nous, ce côté fascicule. La BD, elle est maintenant clairement identifiée comme étant un objet un peu de luxe, quoi, avec une belle couverture cartonnée, un beau façonnage et tout ça. Ah pardon. Oui.
Et du coup, par loin du micro, ouais, ça marche plus.
Et cette idée de BD populaire, de trucs un peu cheap et tout, ça a du mal à prendre, quoi. Mais nous, on aime bien. On aime bien parce qu'on vient de là. Quand on était jeune, c'était ce qu'on achetait, hein, des BD. Donc bon.
En parlant, il y a une exception qui fait tilt dans ma tête. Les fascicules façon journaux du Château des Étoiles.
Il y a eu ça pendant un moment avec les Nestor Burma aussi. Ça, c'était une bonne idée, ouais, de Casterman, qui a été donc reprise par Rutsev sur le Château des Étoiles. C'est un peu l'entre-deux. Ouais, c'est un peu l'entre-deux.
Ça c'est pas, donne un côté c'est très pas mal. Collecteur de ces trucs-là et on sait pas. Alors, je pense que globalement, c'est des trucs qui vont hyper mal vieillir.
Oui, ça vieillit comme des objets collecteurs, effectivement, comme des
vieux journaux.
Des trucs qui sont parus en marge de l'album à un moment donné. Ça reste l'album, la référence, de toute façon.
Après, il y a des exceptions, hein, quand tu vois. Après, on va s'éloigner un petit peu du sujet de prédiction, qui est paria, bien évidemment. Mais Puta Madre chez Ankama. Chez label
ouais c'est vrai
619 ouais, tu vois c'est vrai, c'est ouais vrai. Ouais tout à fait label 619 oui, où ils ont sorti Puta Madre en fascicule souple et là pour le coup qui a connu un succès et à contrario je crois qu'il y avait un truc de SF qui avait été initié par il y avait Vatine dessus il y avait Trondheim
ouais.
Il y avait,
ça s'est
complètement ramassé alors que ça avait quand même vocation à avoir un petit côté cheap et luxe en même temps.
Tu vois, mais justement, 8, à cause de ça.
Infinity 8
Infinity 8, ouais, tout à fait. Ouais.
Et ça s'est gaufré très probablement pour ça, parce que c'était encore une fois à cheval.
Le cul entre deux chaises.
Le cul, voilà. Ouais. Donc, c'était pas assumé complètement cette idée cheap. Voilà. Donc,
Mais ça fait quand même deux fois, alors tu me dis si je me trompe, que tu avais un projet en petit fascicule comme ça. Et que tu pars sur des BD. Parce que les Sansons, ça devait être des choses beaucoup plus. Petit à l'origine, non,
ça devait pas être du fascicule, ça devait être du 46.
Okay.
46 standard en fait, au départ. Mais effectivement, ça devait être tronçonné en. Oui, ça devait être 46 pages et. Donc 6 albums de 46 qui formaient une série, quoi.
Ok. Mais, qui a été pas mal réduit.
Voilà, qui s'est transformé en 3 albums de 94 pages en fait.
Ce qui c'est pas mal aussi.
Mais oui, mais.
Avec là aussi, sur ton dessin, un trait qui rappelle quand même pas mal le comics, en fait.
Oui, alors, c'était un peu particulier, cette histoire des Sansons, parce que, en fait, c'est l'éditeur qui nous a associés, le scénariste et Patrick Mallet et moi-même. On se connaissait pas, bien qu'on connaissait mutuellement nos travaux, et parce qu'on était chez le même éditeur. Mais il y avait une idée de l'éditeur, effectivement, de vouloir donner un ton comics. Et on s'est aperçu très rapidement, au cours du premier tome, qui nous a pris énormément de temps à faire, que ça marchait pas du tout. Donc du coup, dans le premier tome, on voit le résidu de ça dans les premières pages. On a une mise en scène plutôt comics. Et puis plus le récit avance, plus on revient à quelque chose de plus traditionnel en fait, plus franco-belge.
Bon, ça marchait bien quand même, mais.
Oui, mais dans le travail, non, ça marchait pas. Moi, j'arrivais pas à découper comme un comics le scénario de Patrick. C'était vraiment, on était plus proche du roman graphique que du comics en fait.
Je faisais un signe à Boris parce que j'ai vu Masque Rouge.
Ouais,
il y a très peu de gens qui ont la référence parce que bien évidemment, on tape sur des. Sur des trucs d'aujourd'hui, Masque Rouge, c'est. Ah, c'est quoi, c'est les années 80.
Venez nous voir, Masque Rouge, s'il vous plaît.
Masque Rouge,
à côté des. Masque Rouge, venez nous voir. Venez. On va pas vous manger.
Ils sont timides, mais ils ont peut-être.
Venez. Non, Deadpool, on s'en fout. Non, c'est pour. Mais Masque Rouge, c'est très bien, parce que du coup, il y a beaucoup de jeux, il y a peu de gens qui ont la référence.
Mais en même temps, on n'était pas nés.
Oui, on était nés,
bien évidemment.
On était
passé à côté. Bien beau, mais très bien, Deadpool aussi. Attention, il n'y a pas de. Mais Masque Rouge, c'est particulier.
Ouais. Ben oui, et de reconnaître le personnage, c'est pas si souvent.
Avec grand plaisir.
On est spécialiste BD, un peu
tout
aussi,
plaisir est pour nous.
C'est normal.
Donc bravo. Non, franchement, c'est meilleur cosplay du week-end. Voilà. J'ai décidé, j'ai voté, je suis tout seul, je m'en fous.
Il va vous donner son numéro pour vous puisser aller
récupérer un prix. Non, peut-être pas. On va pas pousser jusque-là, mais très bon cosplay.
Spécialiste BD, vous dites.
Auteur, mais après, pas spécialiste plus que ça, mais.
Oula,
au secours. En train de se passer un truc.
Oui. Ils vont sortir des armes. Je pense qu'ils ont quelque chose contre les spécialistes.
Une petite
une carte. D'accord.
Un masque rouge. Je croyais que c'était une identité secrète. Et distribue des cartes.
Ah ouais.
Merci bien. Ah, on ira voir ça, d'accord, ok.
On peut suivre Masque Rouge sur les réseaux.
Ah ouais,
le compte séquentiel.
Je pense que c'est séquentiel.
Non, mais en fait, si t'étais un super-héros aujourd'hui, est-ce que tu serais pas tout le temps sur tes réseaux, sur ton Insta, en train de te prendre en photo, en haut du building et tout?
C'est pas être un super-héros, c'est le plus commun des gens à l'heure actuelle.
Ce serait pas des influenceurs, les super-héros?
Non, je pense pas.
Je ne sais pas.
Pour moi, non.
T'imagines si Batman, il faisait
Instagram?
Alors là, j'ai mis un bon pif au Joker.
Merci beaucoup, carrément.
Merci, Masque Rouge.
C'est inspirant. De quoi on parlait?
Ouais, de quoi on parlait?
De paria.
Ouais.
Est-ce qu'on est là pour ça quand même à un moment donné?
Est-ce que c'est difficile?
Faut qu'on retourne dans
une dystopie comme paria.
Non. Super facile.
Voilà.
Question suivante. Question.
Et ben, il a juste regardé les infos et paf, tout est venu.
Mais alors ça, par contre, on m'accuse beaucoup de me nourrir de l'actualité. Et finalement, non, parce que c'est vrai que on est sur de la. Bah, t'as l'air de douter de mes paroles, mais.
Et les histoires de pandémie.
Mais ça a été écrit bien avant. Très sérieusement, ça a été écrit bien avant, en
de
fait.
Quoi, la pandémie ou paria?
Ça se trouve, c'est la pandémie.
Paria a été écrit avant la pandémie. Je dis pas qu'il n'y a pas eu quelques menus aménagements pour que ça colle plus avec la réalité des faits, mais en tout cas, cette histoire d'affrontement dans les rues, cette histoire de confinement des gens. C'était en place bien avant toute la merde qui nous arrivait aux alentours de 2020, je crois, c'est ça à peu près.
C'est ça.
Ouais.
En GeekFest 2.
On y était tous. Et non, pour le coup, ouais, ça a été écrit en amont. Alors je sais pas.
Ça aurait même pu être dit. Ça a été écrit en aumont, c'est ça, si je ne me trompe pas.
En aigricomont.
Voilà.
Tout à fait. À la POC, à la base.
Est-ce que vous avez d'autres projets, là, les gars, chacun de votre côté?
On n'a pas le temps d'en parler. On n'a absolument pas le temps d'en parler.
Un peu, juste.
Non, mais les gens, ils peuvent attendre.
Alors, moi, pour ma part, je peux le dire, parce que du coup, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais je viens de signer deux albums chez La Gouttière, avec Olivier Supio au dessin.
Tiens donc.
Sur un titre jeunesse, qui va s'appeler Gothique Angélique, qui est les I2 par A2.
Waouh.
Qui se situe encore une fois au 19e, dans un Londres victorien, immanquablement. Qui va parler des frics, en fait, qui est ma petite marotte depuis très longtemps. Ouais. Qui va s'adresser aux enfants, hein, c'est un titre jeunesse, mais qui va avoir le matériau de base des frics, des monstres de foire, hein, comme on dit vulgairement. La femme à barbe, l'enfant crocodile, le chaînon manquant, comme on appelait ça à l'époque. L'enfant tronc, ce genre de choses, quoi. Donc voilà.
Ok, super ça.
Et ça, c'est pour 2024, hein. C'est pas tout de suite, hein. On démarre tout juste.
C'est un challenge un peu de faire un truc pour enfants basé sur un sujet qui même effraie les grands, en fait.
Bah, moi, j'ai toujours été fasciné par l'œuvre de. Alors, qui n'est pas Burton, hein, finalement. Oui. Burton s'est contenté de le produire. C'est Henry Selye qui me semble qui a réalisé les tranches de Noël de Monsieur Jack. On est sur un matériau qui normalement n'est pas calibré pour les enfants et qui pour autant marche et a proposé une œuvre assez hybride par rapport à tout ce qui se faisait à l'époque et qui fait encore date, hein, aujourd'hui. On voit bien que dans le cœur des gens, ça occupe une place particulière de par son esthétique et de par ses thématiques.
On a même vu des cosplays, hein, ce qui...
Et voilà, j'allais y venir. Il y a un cosplay de Jack Skellington qui se trimballe sur des échasses.
Il y a Selye avec un Selye et compagnie qui sont dessous.
Ah bon?
Ouais, il y a maman Selye et bébé Selye, parce que forcément Jack.
Ah oui, d'accord.
En dessous.
J'étais sous le. Mais non, pas du tout. Mais voilà. Donc ça, c'est pour 2024 chez La Gouttière. Titre jeunesse, et puis sinon, 3 et 4, en fait. Le 3, on s'y met très rapidement. Le paria 3 et le paria 4 ensuite, qui va suivre naturellement.
Voilà. Être dans la foulée, quoi.
Et Boris,
moi, je suis sur un polar pour Hachette avec Laurent Frédéric Bollet au scénario.
Voilà. C'est un genre que t'aimes pas du tout, les polars.
Un format noir et blanc, long format, 150 pages à peu près.
Super.
Ah oui, c'est un pavé.
Ah, c'est un pavé. C'est un pavé.
C'est un pavé de 150 pages.
En l'écoutant, vous voyez pas le Boris qui est. Voilà, il a aussi la tête, ouais, c'est un
tout
pavé.
Tout à fait, c'est un pavé.
Voilà. J'en ai fait 25.
Plus que 125.
Plus que 125.
Plus que 125.
Eh bien, merci à vous.
Ah, avec grand plaisir. Rendez-vous sur le stand Richer, on vous attend. Hein. Sur le stand imaginaire, j'arrive pas à m'y faire.
C'est ce que vous voulez, pas de soucis.
Merci beaucoup.
Hein, tu restes ici ou pas?
Je passe de la musique.
Tu passes de la musique.
Cordialement.
À plus.
Cordialement.
Thanks. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive.
Et coucou Pierre-Marie.
Oui, je pouvais pas louper ça.
Bah non. Ce morceau de Muse, le choix de Tony et Murio. Alors donc, vous connaissez peut-être ce morceau Knights of Sidonia, qui était sur leur quatrième album en 2006, Black Rose and Revelations. Je sais pas si vous avez vu le clip.
Non.
C'est un genre de western spaghetti, mais un peu SF aussi. Donc, c'est plutôt...
Bah, c'était pas un petit peu tout le CD qui était comme ça, qui avait ce clip-là. C'était bien la pochette de l'album.
Bah, c'est des gens qui sont en train de manger dans le désert, là. Ça a l'air d'être les gens de Muse. Ouais. Wally Wallou, on redit que le troisième tome de Paria, donc la série steampunk mécatopique.
Qui marche à fond.
Ça marche pas mal. Il reste quand même 12 jours pour débloquer des choses, en fait, hein, dans ce fou lancement. Et moi, je suis content parce qu'il y a un spin-off qui a été débloqué, en fait. Ils font, apparemment, une petite BD d'une quarantaine de pages sur deux personnages un petit peu secondaires dans cette série qui s'appelle La Cagoule et le Piscopie. Et donc, cette petite BD qu'on peut rajouter, en fait, ne sera apparemment vendue que pendant ce fou lancement. Voici. Et puisqu'on parlait des foulancements, on a aussi Jean-Mathias Xavier, JMX, qui est aussi sur Ulule pour un projet en ce moment qui s'appelle La Légende d'Elina et d'Abraxom, un conte illustré sur l'amour éternel d'une dryade et d'un dragon. Jean-Mathias, que vous avez peut-être entendu récemment, il n'y a pas très longtemps, je crois, dans la case de Seb sur Radio G.
Oui, et puis c'est surtout quelqu'un qui vient régulièrement à Imaginaire et à Radio G. Et puis on a pu le voir à l'Angers Geek Festival.
Aussi, ouais, il a animé un atelier dessin d'ailleurs.
Exactement.
Ouais. Et donc c'est quoi une dryade?
C'est un être des bois, c'est un être sylvestre.
Dac, ok. Bon. Donc à surveiller, là il reste 5 jours pour se procurer, enfin précommander cette BD. Bon, là, ils sont à 97%, donc il y est presque. On parle un petit peu de l'agenda.
Oui.
Alors, ouais, ce week-end, donc il y a le festival des jeux du Prieuré. On va parler un petit peu jeux de société là. Donc c'est à Saint-Rémy, la Varenne. C'est samedi après-midi et toute la journée de dimanche. Et on y retrouvera notamment du jeu de rôle. Il y a pas mal d'associations.
Oui, jeu de rôle et jeux de société, tout à fait.
Ouais,
gros, en extérieur.
Ouais, quand même gros festival de jeux de société gratuit. Et puis, puisqu'on parle de gros festival de jeux de société, on a aussi Tour de jeu. Alors là, c'est plus loin, c'est à Vitré.
Oui.
Mais c'est organisé par des copains. Donc on le mentionne et s'appelle Tour de jeu parce que ça se passe en fait dans l'enceinte du château de Vitré. Mmh. Et donc là, gros truc, hein. Je pense qu'ils attendent plusieurs milliers de personnes.
Mais oui, visiblement ça va être chouette.
Mais à côté de ça, dans peu de temps aussi,
c'est l'après-midi aussi d'ailleurs,
du 30 juin au 2 juillet à Tours, il y a le Japan Tour Festival.
Ah ouais, quand même.
Où vous allez pouvoir retrouver de la culture asiatique, des jeux de société, mais aussi des auteurs, puisque nous avons quelques copains qui y vont pour présenter leurs ouvrages.
Très bien. Moi, je voulais aussi mentionner l'expo Tolkien à Saumur. Là, je ne sais pas si vous avez déjà vu des affiches. On en voit dans le centre-ville. Moi, j'ai toujours autant, je ne suis pas très sensible, mais ça viendra peut-être avec l'âge. Il paraît qu'après, on devient sage et tout, et qu'on se met à aimer Tolkien. Mais en attendant, comme je suis un petit peu jeune et foufou, moi, je trouve ça un petit peu chiant. Mais par contre, j'aime beaucoup ses dessins. Et donc, ça tombe bien, parce que c'était aussi quelqu'un qui illustrait ses histoires. Mmh. Et donc, pour l'expo Tolkien qui avait lieu à la BNF il y a, je sais pas, je dirais, ouais, 3-4 ans, ils avaient repris pas mal de ces illustrations. Ils avaient demandé donc à les ateliers de tapisserie d'Aubusson, si j'ai bien compris, de refaire en fait en tapisserie des aquarelles, je crois, de Tolkien. Et donc le château de Saumur a récupéré ça. Et cet été, enfin c'est déjà commencé depuis une vingtaine de jours là. Et ça dure jusqu'au 5 novembre. Ça laisse quand même le temps de y aller. Donc, une expo Tolkien, le pouvoir de l'imaginaire, donc avec ses tapisseries d'Aubusson tirées, en fait, de dessins de Tolkien. Et donc, cette belle affiche qu'on voit déjà pas mal en ville, hein, je trouve, en ce moment, c'était un dessin qu'il avait fait pour Le Hobbit, en 1937. Bilbo va dans les huttes des elfes Raft. Je ne sais pas ce que c'est, des elfes de Raft. Des elfes marins, peut-être. Et y a pas mal d'animations quand même. Donc il y a pas que l'expo tout l'été. Donc au château de Saumur, vous aurez des animations. Il y a des escapes, il me semble, le mercredi pour les grands. Et puis pour les plus jeunes, il y a quand même des chasses au trésor tous les mardis, les jeudis, et une activité à partir de 12 ans, héros et créatures imaginaires. Ils vont aussi en profiter pour rediffuser les trois films de Peter Jackson, et ça se termine par une journée cosplay, alors spéciale Heroic Fantasy, qui aura lieu le samedi 30 septembre, toute la journée dans le château de Saumur.
Ça promet d'être bien.
Ouais, carrément. Et toi, Karine, t'avais un truc lointain aussi.
J'avais
un
truc à mentionner. Ouais. Puisqu'au mot de la fin, on va aussi rencontrer Audrey Brière, qui est une autrice de romans policiers, et notamment de son dernier roman, Les Malvenus, publié aux éditions du Seuil. Donc ce sera le samedi 8 juillet à 19h30. C'est gratuit sur inscription.
Et alors, rappelle-moi où c'est le mot de la fin.
C'est à Montreuil-Junier.
Une
commune avoisinante d'Angers, mais vraiment pas très loin, 15-20 minutes max.
Ok. Bon, et ben c'est l'heure de se quitter. On va terminer avec Sombre Arcane, groupe que j'en avais déjà passé un morceau pour une émission spéciale Halloween. Ils avaient fait un morceau spécial pour une compil Halloween. Et là, je vais vous passer un extrait de leur album Real Songs, Realm Songs, chansons des royaumes. Et c'est un groupe qui est à fond dans les royaumes oubliés, qui est un univers dans Donjons et Dragons, en fait.
Oui, c'est ça.
Donc d'ailleurs, le groupe Sombre Arcane, ils ont repris complètement le logo des Royaumes Oubliés. Et cet album, la Realm Song, est sorti, on trouve, dans un coffret. Donc une énorme boîte avec dedans des bougies, des trucs comme ça, et notamment des fascicules qui t'expliquent comment incorporer les deux musiciens du groupe à ton univers de jeu de rôle. Donc ils deviennent des PNJ, en fait, des bardes que tu rencontres. Et donc on va s'écouter le morceau Devilry of Inertia. Et on termine là-dessus. Rendez-vous dans deux semaines sur le 101.5.
très bien.
Imaginaire, nous on partira en vacances au mois d'août. Donc vous oui. allez nous avoir encore deux fois.
Vous allez devoir nous supporter.
On reste pour les voix du scénarium dans quelques minutes sur le 5.5. Salut.
Salut. Salut.
www.radio-g.fr. Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre...